Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Omelette revisitée aux foliottes du châtaignier, sashimi de truite, fin gras du mézin en basse température, délicatesse de l'érieux, blanc mangé aux amandes du mât d'aiguillon, déclinaison autour des abricots et miel de châtaignier. Direction l'Ardèche, ce midi, département de la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre Lyon au nord, Avignon au sud, Valence à l'est, un territoire qui sent bon la châtaigne, la myrtille, le fromage de chèvre, le saucisson et bien d'autres bonnes choses encore. Pour parler avec nous de la cuisine ardéchoise, de Toqué d'Ardèche, du nom de cette association qui regroupe une dizaine de chefs ambassadeurs de la cuisine ardéchoise, Claude Brioude est avec nous, il a fait le voyage, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci, vous êtes le descendant de 5 générations de cuisiniers ardéchois.
Et de cuisinières.
Et de cuisinières, bien entendu. Vous tenez le restaurant et le bistrot Brioude à Nérac-les-Bains, bistrot qui a reçu un Bib Gourmand au Michelin 2025, oui. Distinction qui garantit, je le rappelle, un repas de qualité à prix accessible pour les petits budgets. Et vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Connaître la cuisine ardéchoise » paru aux éditions Sud-Ouest. Avec nous, le deuxième Toqué d'Ardèche, c'est Florian Descours. Bonjour à vous.
Bonjour.
Du restaurant La Boria, ferme, petite ferme Sévenol, en patois ardéchois. La Boria s'est située à Véras, c'est à l'entrée de Privas, Privas étant la préfecture de l'Ardèche. Vous êtes, vous, 3 toques et 16 sur 20 au Goemio, et vous avez obtenu une étoile au guide Michelin en mars 2025. Ninon Tanga est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes cuisinière et chercheuse en culture culinaire à Saint-Agrève. Vous menez un travail d'enquête d'histoire et d'archivage des pratiques de la région, avec dans l'idée de retracer comme un garde-manger du nord de l'Ardèche jusqu'à l'arrivée du supermarché. Donc c'est juste avant, mais beaucoup d'histoires. Elle est très longue cette histoire. C'est un projet que vous avez intitulé le Laboratoire des cuisines populaires et qui se décline en un podcast, Les Ginettes, qui est hébergé par la radio des Boutières au Chélard.
Exactement.
Et un projet d'archivage de l'histoire des pratiques culinaires d'Ardèche, une sorte d'atelier de récolte des paroles d'anciens, des souvenirs culinaires. Vous allez voir notamment des anciens en EHPAD et vous avez intitulé cet atelier de récolte le garde-manger, logiquement. Le lien d'ailleurs entre vous trois, outre l'Ardèche bien entendu, c'est peut-être ce rapport à l'histoire de la cuisine. Alors toutes les régions de France et de Navarre ont un lien très long à l'histoire bien entendu, mais il me semble que tous les trois, en tout cas, vous avez à cœur de porter cette histoire. Par exemple, Claude Brioude, aussi bien avec cette association Ardèche le Goût, qui oui. archive et préserve des semences locales comme le haricot du Chélard, mais aussi comme votre livre, parce que votre livre, c'est là aussi pour vous une manière de récolter, d'archiver tout ce que vous avez découvert en famille. Vous avez travaillé des recettes, des traditions et rapporté toutes celles de tout le département. Donc il y a une longue histoire avec vous trois.
Après, c'est 5 générations plus moi. J'avais un peu d'héritage. Et puis, c'est le fondement de notre cuisine. En réalité, même si on veut faire une cuisine inventive, il faut avoir quelque chose sur quoi s'appuyer. Et je pense que ces traditions locales et ce savoir-faire, et puis c'est les produits, tout ça, ça nous lie en fait. Je pense que c'est les produits qui nous lient le plus. Le lien, c'est le lien entre les producteurs, les produits, les variétés hyper locales. Parce qu'on a plein d'associations qui se chargent de récupérer plein de variétés, les pommes anciennes, les châtaignes, avec les appellations, tout ça. Mais moi, ma grand-mère, elle utilisait une variété de châtaigne qui, je pense, est dans son village, je ne pense pas qu'il y en ait ailleurs. Et je suis incapable de la reconnaître. Je pense qu'il y avait qu'elle qui pouvait la reconnaître. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on est liés. C'est tout cet amour.
Ninon Tanga, il manquait quelque chose pour vous être lancée dans ce vaste projet ?
Moi, je pense que c'est une question de variation. Effectivement, il y a toujours ces produits qui nous lient. Mais ce qui me passionne, c'est toutes ces manières, en fait, de les travailler au travers de l'histoire et au travers de l'espace. Parce qu'il y a différentes Ardèches, ça, on en a parlé. Et on retrouve à chaque fois des petites variations dans les recettes.
Grandes, même, des fois.
Des grandes variations. Et ça, c'est intéressant de les avoir dans des récits. Voilà.
Florian Descours, vous aussi, vous avez un lien avec l'histoire, c'est-à-dire que vous travaillez de façon contemporaine l'histoire traditionnelle des recettes.
Ah, déjà, je suis issu moi d'une famille de paysans depuis plusieurs générations aussi, et c'est vrai que on a été bercé dans une cuisine qui s'est toujours inspirée de ça, des produits simples, des produits vrais, un petit peu de cueillette, mais il y a une vraie histoire de choses simples qu'on trouve autour de nous en Ardèche.
Alors vous dites, Nino Tanga, qu'il existe différentes Ardèches. De fait, c'est l'histoire, mais c'est aussi la géographie. C'est une cuisine ardéchoise qui se décline au pluriel. On a coutume de parler d'au moins deux Ardèches. Mais là, on va pas se disputer, déjà vous faites la tête. Bon, enfin, c'est des anthropologues qui le disaient, l'Ardèche au beurre et l'Ardèche à l'huile. Vous en parlez dans l'introduction, Claude Briou, de votre livre. Il y en a peut-être au moins trois, en fait.
Moi, je dirais qu'il y a quatre grandes régions. Il y a la montagne, parce que c'est géographique. Je pense que les régions sont géographiques. Il y a la montagne, il y a le sud du département, avec un terroir très particulier et des sols très particuliers, un plateau calcaire de la garrigue. La moyenne montagne avec les châtaigniers. Et on oublie souvent de dire, il y a la vallée du Rhône, qui est un terroir de plaine alluvionnaire. Mmh. Et c'est quelque chose qui fait pas très grand, mais c'est quelque chose de totalement différent. Et la montagne, qui est un peu la rudesse et la beauté des produits, la charcuterie, les choux, les raves, et puis un peu plus loin, les lentilles. Bon, même si c'est pas tout à fait en Ardèche, mais voilà. Et puis le sud avec l'huile d'olive. Et toutes nos régions, et ce qu'on partage, c'est cette diversité en fait. Mmh. Et je pense que c'est ce qui a marqué les cuisines de chacune, c'est parce
que de chaque coin de l'Ardèche.
Ouais. C'est parce que quand on est en montagne, on n'a pas accès aux mêmes produits que quand on est au Vence, par exemple.
Nino Tanga.
Mais moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Et puis, en fait, j'ai l'impression. Moi, je viens du Cheylard. Je suis née à Saint-Agrève, mais je vis et travaille.
Le Cheylard, c'est plutôt au nord de l'Ardèche.
Alors,
entre les deux.
C'est la
moyenne et la haute.
C'est ça. C'est le pays des pentes, qui est très bien décrit par Sylvette Barrow-Williams, cette anthropologue. Et donc, dans ce pays des pentes-là, c'est plutôt. On a une nature qui est assez abondante. Par contre, on a des toutes petites terrasses. Donc, on va avoir des toutes petites productions, en tout cas historiquement. Donc, on n'a pas ces grands plateaux. Par exemple, là où je rejoins sur la montagne, où là, on va avoir des grands plateaux, donc des grandes productions.
Qui sont battus par les vents, hein, des plateaux qui sont assez rudes, propices à l'élevage bovin.
Mais propices
à la production
au lait,
de foin, de beurre.
Au foin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, on a été obligé d'être solidaire économiquement. Et c'est ça qui est, je trouve, beau dans ces terroirs-là, dans cette diversité-là et ces variations dont je parlais. C'est qu'à un moment donné, on a été obligé économiquement d'être solidaire. Et donc là où on trouvait pas le beurre, donc on allait le chercher. Là où on trouvait pas l'huile, et c'est ça qui fait communication entre, c'est ça qui fait culture culinaire et communication entre ces différents petits micro-régions, comme on a. Coutume de les appeler.
Oui, il y avait beaucoup d'échanges. Moi, je me rappelle du temps de mon grand-père, quand on faisait la tuade et qu'on faisait les saucissons, les jambons.
On va y venir, à la tuade.
On montait les jambons et les saucissons chez l'oncle à la montagne.
On le fait toujours,
pour avoir quelque chose qui sèche.
Vous le faites toujours, Florian Discours, ouais.
Nous, on le fait toujours, on le monte sur le plateau à la ferme de la Besse.
Voilà.
On fait 10 cochons par an et on garde ce qui sèche facilement en bas, c'est-à-dire les saucissons, les petites pièces et toutes les grosses pièces, on les monte à la montagne, à la ferme de la Besse.
Parce que dans la tradition ardéchoise, il y a un jour où on tue le cochon en famille. C'est ce qu'on appelle la tuade, Nino Tanga.
En famille, avec les voisins, les amis.
C'est ça.
C'est un très beau moment. Ouais.
C'est quand ? Il y a un jour particulier dans l'année, toujours ?
Il n'y a pas de jour particulier, ça se fait généralement en janvier-février, parce que c'est des périodes plus froides, il faut pouvoir faire sécher correctement. Et puis le jour où on le fait, il faut qu'il fasse frais aussi, pas trop humide.
Nino Tanga ?
C'est ça, on a pas mal de témoignages, en tout cas des anciens sur les tuades. Et c'est ça, c'est à cette saison froide-là. Mais en fait, à chaque fois, c'est toujours très logique. C'est-à-dire qu'on ne va pas le faire en plein été quand il fait très chaud. On va commencer à le faire à la saison froide pour simplement des questions de stockage. Et alors, on mange la fricassée à ce moment-là.
C'est quoi la fricassée ?
Donc la fricassée, c'est un plat qu'on va cuisiner à base de foie, de cœur, de poumon, de boudin. Et on va le partager, et c'est cette coutume-là. En fait, quand on va remercier les personnes qui nous ont aidés en leur offrant une fricassée.
C'est ce que vous avez bien connu, Claude Briou, dans votre enfance.
Ouais,
vous faites même d'ailleurs une semaine cochonaille en janvier au bistrot.
Alors, ce qu'on faisait surtout, c'est que moi, je me rappelle surtout du bouillon, parce que il fait froid. Hein,
au lard. Et
pour ceux qui ont nettoyé les boyaux dans le ruisseau ou au bassin, on a froid aux mains. Donc, à midi, on mangeait un bouillon. La fricassée, nous, souvent, on ne la faisait pas, parce qu'en fait, ça dépend des recettes qu'on fait. On a besoin du foie pour le pâté. Alors il faut négocier où est-ce qu'on va mettre le foie, parce qu'on n'a qu'un cochon. Donc nous, on faisait beaucoup le midi, c'était ce fameux porcher, c'est un bouillon, c'est un pot-au-feu de porc en fait, parce que c'était facile. On met, c'est la première, quand on a saigné le cochon, on enlève ce morceau, on le met dans la marmite à cuire. Et puis le soir, moi c'est le soir, je m'en rappellerai, parce qu'on goûtait tout ce qu'on avait préparé, les saucisses, le boudin, le graton, le cervelas, et la terrine, qui sont les charcuteries qu'on fabrique le jour de la tuade, mais qui ne sont pas amenées à être conservées. Il y a des charcuteries qu'on fait, le jambon, les saucisses, qui elles sont amenées à être conservées. Et puis il y a les charcuteries qu'on fait, par exemple, le fromage de tête, parce qu'on ne gaspille pas la tête. Et ça, c'est des charcuteries qu'on mange le soir et qu'on distribue. Moi, je me rappelle, petit, on part, tous les gens qui venaient partaient avec du graton, parce que ça ne se garde pas, du cervelas, parce que ça ne se garde pas. Et tout le monde emportait ça.
Florian Descours.
On avait le Jésus aussi qu'on mangeait d'une année sur l'autre, du coup.
C'est quoi le Jésus ?
Le Jésus, c'est le nom d'un boyau déjà, et c'est le plus gros des saucissons. Et ce saucisson-là, du coup, qui mettait très longtemps à sécher, on le mangeait souvent sur la tuade de l'année d'après, en fait. Et ça, c'était une façon de voir la qualité de nos charcuteries d'une année sur l'autre, quoi.
Et avec, on fait aussi tout ce que vous avez dit, mais on fait aussi de la maoche. C'est quoi la maoche ?
Ça, c'est plus à la montagne.
Ouais, c'est vraiment typiquement montagne. C'est une farce, une pince de porc qui est farcie, choux, viande, pommes de terre. Je vais doucement sur la pomme de terre.
Tout le monde ne sera pas d'accord. Et on fait aussi de la caillette, qui est vraiment emblématique de l'Ardèche.
Oui.
Alors c'est quoi la caillette ? Florian Descours.
Je disais la caillette avec ses 200 recettes différentes.
Voilà.
Il n'y a pas une rue dans un village où on a la même recette. C'est ce qui est drôle en Ardèche d'ailleurs. Hein. Et comme on disait, c'est vraiment avec ce qu'on avait sous la main. C'est-à-dire que si dans le jardin, à ce moment-là, on avait des blettes, et on mettait des blettes. Si on avait beaucoup de salade, on mettait de la salade. Voilà. C'était des choses simples.
Je vous garde, Florian Descours, du restaurant Laboria, parce que vous représentez toute l'Ardèche dans votre cuisine. Le bœuf du Yann Privat, le cochon de Beaulieu, les escargots de la vallée de Lérieux, la truite de la bâtie d'Andorre, le pigeon ramier de l'Escriné, les fromages de Rochessauve. C'est comme si vous proposiez un voyage gustatif du plateau ardéchois aux gorges de l'Ardèche, de la vallée de Lérieux, aux cimes du Coiron.
On essaie d'être à 100% en fait. On achète du sel, du poivre, quelques produits pâtissiers, encore un peu de café. Encore que j'ai trouvé une alternative au café en parlant avec ma grand-mère. À l'époque, quand ils avaient du mal à avoir du café, ils faisaient torréfier de l'orge. Et ils faisaient un café avec ça. Du coup, aujourd'hui, on fait des plats à base de cette orge torréfiée. C'est super intéressant. Mais on essaye, oui, de chercher des choses qui... Alors moi, je cherche dans mes souvenirs. J'ai encore une grand-mère, donc je parle beaucoup avec ma grand-mère. Mais on essaye d'avoir une cuisine qui parle du pays, mais en étant un minimum moderne et accessible.
Alors, il y a un endroit qui parle du pays, mais qui existe depuis 2022. C'est une toute petite boutique où l'on trouve les meilleurs produits ardéchois. Et c'est à Paris. Ça s'appelle l'Ardèche à Paris. Et son propriétaire, Laurent Ahon, photographe de son état, ardéchois, fait des allers-retours pour aller chercher des bonnes choses auprès de ses fournisseurs et les rapporter à la capitale. Je suis allée lui rendre visite vendredi. Il rentrait tout juste avec 100 kilos de produits dans ses bagages, devant les vinaigres, les huiles d'olive de la Magnanerie, qui est championne du monde en 2022, les vins d'Ardèche, le Cornas, le Saint-Joseph, le Viognier, les miels, la crème de marron, les caillettes. Je lui ai demandé ce que contenaient ces valises.
D'abord des salaisons. Je suis allé faire la tournée sur le plateau ardéchois auprès de mes fournisseurs chéris qui m'ont livré quelques pépites, donc de magnifiques Jésus, des saucissons qui étaient en train d'être affinés depuis plusieurs mois et qui nous attendaient, donc des salaisons. Il y a de la jambonnette
qui pend au-dessus de nous.
C'est ce qui pend au-dessus de nous, voilà. Des saucisses, des Jésus, des noix
c'est
de jambon.
C'est quoi les Jésus ?
Le Jésus, en fait, c'est le gros saucisson, c'est le gros boyau. Donc en fait, il y en a un par porc. Ça donne une petite acidité à la viande et c'est maturé pendant plusieurs mois et c'est quelque chose qui se mangeait autrefois à la ferme quand on fêtait un grand événement, quand on finissait des travaux, un cycle de travaux. Et c'est vraiment le saucisson du partage. Alors les fromages, alors en Ardèche évidemment incontournable, les fromages de chèvre, des petits picodons, des fromages affinés, des tomes de montagne, des fromages de vache, plateau ardéchois principalement, des bleus, des fromages à pâte crue, quelques pâtes pasteurisées, et puis quelques fromages de brebis, puisque sur les pentes Cévenoles, on a quand même pas mal de troupeaux qui nous fournissent un lait absolument excellent et qui est transformé pour nous donner des tomes comme la Topernas par exemple, qui sont des tomes affinés pendant plus de 24 mois. Et on a un petit trésor qu'on appelle le parmesan de chèvre. C'est une tome qui est affinée pendant 4 ans à Montpezat, chez un petit fournisseur en fait, et qui était un concentré des meilleurs composants du lait de chèvre du plateau.
confiture vous avez ?
Alors, confiture, on a évidemment. Donc, confiture de framboise, confiture de myrtille.
Obligé.
Et puis la châtaigne, puisque quand même l'Ardèche, c'est le pays de la châtaigne. Donc, on travaille avec plusieurs petits fournisseurs qui nous ramènent de magnifiques confitures. En fait, l'idée de cette boutique, c'est vraiment être une ambassade des meilleurs produits de l'Ardèche, mais avec des valeurs de qualité qui sont, et de rareté qui sont à la base de tout. Et ensuite, voilà, l'idée, c'est de transmettre tout ça, parce qu'aujourd'hui, on est en train de perdre parfois ce savoir-faire de la cuisine simple ou des produits simples transformés qui nous apportent que du bonheur à partager.
Mais non, nos invités nous prouvent qu'on n'est pas en train de perdre cela. Mais Claude Brioux, de l'Ardèche, c'est le pays de la châtaigne, de la charcuterie et du fromage ?
Ah bah, la châtaigne, oui, on est quand même le premier producteur français de châtaigne. Donc là, on n'a pas le choix.
S'il y a bien un produit ardéchois, c'est la châtaigne.
C'est la châtaigne.
AOC depuis 2006.
Oui.
Avec 65 variétés.
Oui. Oui, et encore, il y en a presque plus. Mais oui, c'est vraiment le cœur de. Alors, historiquement, c'est quand même le fruit, on le dit, qui nous a sauvé plusieurs fois de la famine.
L'arbre à pain.
Et c'est un arbre qui a la particularité d'être multifonction. Il nous nourrit. Il nourrit le bétail, puisqu'on fait la rame et on fait manger la feuille de châtaignier. Il nous meuble. Et il nous chauffe. Donc, on ne peut pas le faire mieux que ça.
Et c'est vrai aussi au nord de l'Ardèche, à Nantanga ?
Moi, je mettrais quelques nuances là-dessus. C'est qu'effectivement, c'est un fruit emblématique de notre région. Par contre, dans les pratiques, si on rentre un peu plus dans l'ethnologie, on se rend compte que c'est plutôt la pomme de terre qui est vraiment... En tout cas, dans ce qu'on va consommer au quotidien. La châtaigne...
Vous voulez dire aujourd'hui ou dans l'histoire ?
Un peu des deux, c'est en train de se transformer aujourd'hui, mais jusqu'à la génération, donc jusqu'aux personnes qui sont nées à peu près dans les années 1950, on est vraiment encore là-dessus. Hein. La pomme de terre, c'est le lundi, le mardi.
Oui. Et puis la châtaigne, c'était souvent... Alors ma grand-mère, hein, mon grand-père en particulier, maternel, me disait... on faisait un foie gras à la châtaigne, et la châtaigne, c'était pour les cochons. C'était ça.
C'est pour les rendre meilleurs 3 semaines avant.
Mais dis donc, on a appris en avril de cette année 2025 que le leader français de la crème de marron, l'ambassadeur Clément Faugy, allait retirer le mot Ardèche de ses pots de crème de marron. C'est un séisme, ça ? Claude Brioux ?
Non. C'est un peu dommage.
C'est la logique des choses.
C'est la logique des choses.
Les châtaignes ne viennent plus d'Ardèche.
Pour eux, en tout cas, ne venaient pas d'Ardèche. Voilà. Donc, c'est normal. C'était un peu problématique, parce qu'il y a une grosse production en Ardèche et elle n'était pas utilisée pour faire cette crème de marron complètement. Après, ce sont des gros fabricants de crème de marron, donc je pense qu'il y a des difficultés. C'est un fruit qui est quand même assez capricieux, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est un fruit qui aime les pluies du mois d'août, c'est un fruit qui aime pas trop les automnes trop pluvieux, les printemps trop secs. C'est un vrai fruit, hein. C'est pas quelque chose, c'est un vrai fruit qu'on cultive.
Florian Descours, il faut qu'on vous laisse à votre déjeuner familial du dimanche.
Bonjour ma grand-mère, ouais.
Est-ce que vous la cuisinez ? Comment vous la cuisinez, la châtaigne, vous, si vous
Alors,
en faites ?
Alors la châtaigne, déjà, nous, c'est uniquement en saison. Moi, j'aime bien la travailler quand c'est frais et quand c'est là. On fait une cuisine qui suit exactement les saisons. On change nos plats toutes les 3 semaines, donc ça va bien avec ce qu'on fait. Et j'aime beaucoup le gibier. Je trouve qu'avec le gibier, c'est juste extraordinaire, la châtaigne. Voilà.
Et nous aurons compris dans les bonnes choses ce midi sur France Culture à midi 18 que nous parlons non seulement de la châtaigne mais de toutes les saveurs ardéchoises. Nous sommes en compagnie de Florian Descours qu'on va laisser partir à son déjeuner. Merci d'avoir participé à cette émission du restaurant Laboria à Verras à l'entrée de Privas. Nous sommes en compagnie de Claude Brioux et de Ninon Tanga.
Une pâte sablée, un fond de frangipane parfumé au rhum, de la crème de marron, des marrons entiers concassés et le tout surmonté d'une dacquoise aux amandes. En 1994, un groupe de pâtissiers, confiseurs et glaciers ardéchois et drômois dépose à l'INPI la recette collective du loupisadou. Elle devient la propriété de leur syndicat. Vous ne trouverez de loupisadou qu'en Ardèche ou, à la limite, en Drôme. Et uniquement chez des professionnels agréés. Il est emballé dans une boîte au packaging spécifique et flanqué du logotype « Goûter l'Ardèche ».
À Un extrait de la radio Les Ginettes de notre invité Ninon Tanga, le Loupi Sadou. Alors, si on affine un peu, on parlait de châtaigne, de charcuterie, de fromage, de pommes de terre, on parle aussi du fin gras du maisin. Qu'est-ce que c'est le fin gras du maisin, Claude Briou?
C'est une appellation qui est pour la viande bovine. Et en fait, c'est une tradition là typiquement de montagne, puisqu'en fait, on engraissait les bœufs qui étaient prêts à tuer en l'étable, avec ce fameux foin qui est vraiment le foin de la montagne ardéchoise, qui est un foin qui est très particulier, très riche, en particulier en cistre, qui est une sorte de fenouil sauvage un petit peu. On disait dans le temps qu'on pouvait évaluer le prix des hectares de prairies en fonction du nombre de cistres qu'on trouvait. Parce qu'en fait, c'est une plante qui est galactogène, qui permet de faire du lait aux vaches, pour ça qu'on aimait bien. Et du coup, c'est une appellation, c'est un bœuf qu'on peut cuisiner à partir du 14 février, donc quand il a fini son engraissement, jusqu'au début du mois de juillet. Alors, on arrive à en avoir jusqu'à fin juillet si on achète une bête et qu'on la fait maturer, à peu près. Et voilà, c'est une manière ce sont des variétés de races qui ont été sélectionnées, qui sont typiques des races montagnardes, et qui permettent d'avoir une viande de très grande qualité. On retrouve un petit peu à Paris, dans certaines des meilleures boucheries, je vais dire. Voilà.
Il m'entendra?
Mais oui, moi je trouve que c'est ça qui est beau dans cette cuisine ardéchoise. C'est comme on l'a dit, c'est une cuisine qui est très spatialisée, qui est une cuisine spatiale, mais c'est aussi une cuisine temporelle. Et en fait, on cuisine qu'avec les saisons, comme vous venez de nous le rappeler, et comme Florian l'a dit aussi sur la châtaigne. C'est saisonnier.
En même temps, il y a une constante, enfin plusieurs d'ailleurs constantes, mais dans ce rapport à la fois spatial et temporel, c'est la crique. La crique qui est l'un des plats emblématiques qu'on retrouve dans l'histoire et qu'on retrouve peut-être dans toute la région. La crique, vous vous y êtes intéressé, Ninon Tanga. Ah oui. C'est quoi la crique?
Oui, je m'y intéresse de très près. Je suis même en train d'élaborer un ormocrique pour essayer de récolter mes récits au plus juste. On va s'intéresser à la taille des copeaux de pommes de terre.
Alors attendez, d'abord, une galette de pommes de terre.
C'est une galette de pommes de terre qui est cuite à la poêle. Après, je ne peux pas en dire plus sans qu'on rentre dans des variations.
Alors, chacun a sa façon de faire la crique, c'est ça?
Oui. En plus, c'est à la fois chaque famille et il y a... Donc, il y a la sienne et chaque région d'Ardèche qui a un petit peu sa tradition. Vers chez Ninon, on va utiliser du lapi, donc qui est une sorte de céleri sauvage, un peu cultivé, mais un peu, qui ressemble un petit peu à l'âge des montagnes. Voilà. On va utiliser, on utilise les persils. Mais la base, c'est les pommes de terre râpées, plus ou moins grosses. Et c'est ça qui est compliqué. Suivant où on est, elles vont être plus ou moins grosses.
Et puis certains cuisent leur crique à l'huile, d'autres au saindoux.
Oui. On retrouve même du beurre.
Il y a de l'œuf ou pas?
Ouais, on met du beurre de l'œuf ou pas, de l'ail ou pas.
Pas d'huile d'olive, par exemple.
Non, par contre, ça, on s'accorde.
C'est quelque chose qui... Voilà.
Pas d'huile de noix, mais bon,
non
ça...
Non plus, mais...
Vous proposez une recette de crique, évidemment, Claude Briou, dans votre livre « Connaître la cuisine ardéchoise ».
C'est celle de mon papa.
De la même façon que vous proposez une recette de tarte aux myrtilles, parce qu'on ne peut pas faire une émission sur les saveurs ardéchoises sans évoquer le fruit emblématique de la région, dont la saison, je le précise, est estivale. Il y a même une journée dédiée, début août. La saison commence fin juin. Oui. Évidemment, c'est la myrtille. Nous avons avec nous par téléphone le producteur de myrtilles et président de l'association La Myrtille Sauvage, Francis Giraud. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour.
Elles sont sauvages, les myrtilles, en Ardèche?
Ah, bien sûr, elles sont, j'ai toujours dit, moi, quand les gens, ils parlent du bio, avant d'être bio, elles sont sauvages, donc automatiquement, ne cherchez pas plus.
C'est un peu comme la ronce, là où on coupe un arbre, un myrtillier pousse spontanément, c'est ça?
Exactement. De toute façon, la montagne ardéchoise, c'est pas compliqué, du moment où vous êtes dans les versants à Lubac, vous arrachez un genêt, vous coupez un arbre, et les myrtilliers poussent automatiquement, tout seul.
On en trouve où? Et on en trouve quand?
Alors, on en trouve à l'Ardèche un peu de partout, et ça commence déjà à 600 d'altitude pour finir bien sûr au plus haut sommet du Mézin. Après, il faut un peu de partout, tout le long de la route, toute la saison, on va dire de fin juin jusqu'à mi-août, voire fin août. Vous roulez sur la route des crêtes et automatiquement vous allez tomber sur des producteurs qui vendent en direct.
Et vous la récoltez, vous, avec un peigne, c'est ça?
Oui, c'est ça, ça n'a pas changé. Hein. Depuis Je me rappelle quand j'étais tout petit, les peignes ont un petit peu évolué parce qu'avant le manche était en bois, maintenant il est un peu en fer avec légèrement été amélioré, mais un peigne, et puis voilà, de haut en bas, on tire et on vide ça dans la caisse ou alors dans un seau, et en espérant que ça fasse le plus de bruit possible, c'est que c'est une bonne récolte après.
Et alors, est-ce que l'année 2024 a été bonne? Est-ce que vous avez un bon espoir pour la récolte 2025?
Oui, alors 2024, une année très 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 humide, et du coup voilà, on a ce petit problème de drosophile donc qui nous a pas mal perturbé. Donc très peu de récoltes. Et pour 2025, déjà le gel n'a pas été trop important pendant la floraison. Donc j'ai espoir d'avoir une belle récolte. Voilà, on se prononce pas vraiment de suite, mais voilà, les fruits ils ont débourré, comme on dit, ils sont passés de la fleur au fruit, donc il y aura quand même une récolte.
On en fait des tartes, on en fait des confitures, je dis on, vous en faites vous, Francis Giraud?
Alors moi malheureusement j'en fais très peu, mais par contre c'est vrai que avant tout je préfère le manger tout simplement en salade de fruits avec peut-être une framboise ou alors des fraises pour mettre un peu de la couleur. Vous mélangez ça, un filet d'eau dessus, il faut pas trop les laver, et vous mettez ça un quart d'heure, demi-heure au frigo, et vous mangez ça en salade de fruits, c'est excellent. Après bien sûr il y a la tarte à la myrtille qui est incontournable.
Hein. Merci Francis Giraud.
Voilà.
Au grenier, odeur des myrtilles dans les grands paniers. Ombre, mon royaume, je retrouverai les anciens arômes et les noirs portraits, les enfants qui dorment, les fauteuils boiteux, les ombres difformes, la trace des jeux, odeur des myrtilles dans les grands paniers. Que demeure-t-il de nous au grenier? Odeur des myrtilles dans les grands paniers.
Et pas d'émission sur l'Ardèche possible, évidemment, c'est sans entendre à un moment l'ami d'entraigue, Jean Ferrat. Un grand merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Avant de nous quitter, quelques bonnes adresses conseillées et ou testées à partager encore, que nous mettrons sur la page de l'émission, bien entendu, en dehors du restaurant de Claude Brioude et du restaurant Laboria de Florian Descours. Dans les restaurants, les trois amis à Vineuzac, la Récré au Vence, la Maison Aillon, la Bola à la Boule, ou encore le Café Bistrot au Bon Port, tenu par Martin, à Saint-Mélanie. Ensuite, l'Ardèche a son eau, la reine de basalte, son glacier, Terra Délice, ses produits laitiers, Areilladou. Et donc, pour les Parisiens qui voudraient goûter les saveurs ardéchoises, la caverne ardéchoise d'Ali Baba, l'Ardèche à Paris, tenue par Laurent Aon. Le livre de Claude Brioude, Connaître la cuisine ardéchoise, édition Sud-Ouest, et de ce livre d'ailleurs, vous nous avez offert, et nous vous en remercions, deux recettes qu'on met sur la page des bonnes choses. La crique, bien évidemment, on en a parlé. Et l'autre, le dessert, l'ardéchois. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses, rendez-vous sur l'application de Radio France avec Siam Boutata, Audrey Carme, Fanny Constant et aujourd'hui à la prise de son Jean-Guilain Mège. Nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute de France Culture.
Dans les grands paniers, que demeure-t-il de nous au grenier? Odeur des myrtilles dans les grands paniers.